les auditeurs, les auditrices même, il y a beaucoup d'auditrices d'ailleurs, ont littéralement se sont emparés du sujet dont ils voulaient parler ce matin, la lutte, parce que tu nous disais que The Undertaker, il y a 30 ans, jour pour jour,
le 22 novembre,
faisait son apparition dans un ring de lutte.
Oui, absolument. Présenté par Ted DiBiase dans un 4 contre 4. Il avait liquidé tous ses adversaires. C'était Roddy Piper. Je me souviens bien qu'on entendait tantôt hystérique le s'épanouir devant sa grandeur. Puis on filme Undertaker avec une caméra à Rolls-Royce pour être sûr qu'elle a l'air le plus grand possible. C'est tout simplement fantastique. Mais ce qui est fantastique avec The Undertaker, c'est qu'il a gardé sa gimmick, qu'on appelle son rôle, là, même à l'extérieur du ring.
Et je ne sais pas s'il y a des gens qui sont nostalgiques. N'importe quoi pour, évidemment, pour éviter de parler de la maudite COVID.
Toujours.
On l'appelle comme ça, maintenant, affectueusement, la maudite COVID. Ça nous change les idées. Et là, il y a des gens qui ont commencé à dire, oh, moi, mon meilleur, c'était... Il y en a un qui nous a dit...
Michel Justice Dubois.
Oh, ça, je l'adorais, lui. Michel
Justice Dubois. Il y a quelqu'un qui nous dit mon lutteur préféré.
Dubois.
Ouais. Ah, ça, il appliquait sa justice et le meilleur gérant de tous les temps, Eddie the Creechman.
Ben oui, Eddie Creechman
qui
était un personnage.
Il avait une cour à scrap, pareil, à Saint-Hyacinthe.
Et il se promenait sur le bord du ring avec supposément un bâton électrique.
Paul, te souviens-tu...
J'avais oublié ça.
Ouais.
Te souviens-tu de Pat Patterson quand il était ici? Parce que c'est maintenant une des grandes têtes dirigeantes de WWE.
Absolument. Mais
quand il était ici puis il chantait « Ne pleure pas, Rougeau ».
Oui.
Voilà, zing, zing, zing.
Mais là, tu me parles de Pat Patterson.
Oui.
Mais la référence au Québec en matière de lutte, c'est Pat... Pas Patterson, Pat Laprade, qui est avec nous ce matin. Bonjour, Pat.
Salut, salut.
Ah, pas de bon sens. Il a fallu que Martin Lemay se mette à parler de lutte, que nos auditeurs se sont emparés du sujet.
Ben écoute, on m'a sorti du lit pour vous parler de lutte.
Pat, d'ailleurs, je dois dire, a écrit la biographie du géant ferré avec Bertrand Hébert. J'ai adoré son livre. J'ai appris plein de choses, d'ailleurs. Parce que ça aussi, ça a été une légende de la lutte, le géant ferré.
Ah ben oui, absolument. Quelqu'un que les gens se souviennent encore aujourd'hui, ou les plus jeunes en ont, à tout le moins, entendu parler. Il n'a pas été au Québec longtemps, mais il a marqué son époque. Difficile de ne pas marquer son époque. Hein, quand on fait 7 pieds et 350 livres... comme le géant faisait, mais écoute, des lutteurs au Québec, je vous entendais parler, Eddie, le Brain Creechman, et puis, moi, tu me fais toujours rire quand t'imites Mad Dog Vachon, Paul.
Oui, Mad Dog, il nous a quittés. Ouais. Ah, je sais pas si... Hey, écoute, si je me mets à imiter Mad Dog Vachon, moi, je finirai pas l'émission. Vous voulez avoir une imitation?
Ah, ben oui, ben là, c'est sûr.
Ben non, mais...
On veut ça, oui, oh, t'es capable.
Là,
oui, mais là, la princesse Kate veut, mais Nadia n'aimera pas ça. C'est la patronne qui est au-dessus de... Vous voulez avoir un petit peu de Maurice
Vachon? Oui, on veut. Mais oui, on veut.
Qu'est-ce que vous voulez que je raconte?
Que tu racontes n'importe quoi.
Qu'est-ce qui va se passer au Centre Paul Sauvé, Paul?
Dans mon prochain combat, je vais affronter Hulk Hogan. Et je vais représenter mon pays que je l'ai fait aux Jeux de l'Empire en 1950.
Et c'est vrai, Pat Laprade. Mais
ben
Pat,
oui,
Pat, non seulement j'ai fait une invitation à m'arracher les cordes vocales, mais l'information était juste. Il avait été médaillé d'or à ce qui allait devenir les Jeux du Commonwealth, Maurice Vachon.
Absolument, absolument. Il avait participé aux Jeux olympiques de 1948
à
Londres. Avait terminé septième.
Ouais.
Et deux ans plus tard, aux Jeux de l'Empire, comme on les appelait à l'époque, avait ramené la médaille d'or. Il était tellement déçu, Maurice, parce que lorsqu'il est revenu après deux mois, parce que bon, c'était en Nouvelle-Zélande, les Jeux de l'Empire, à ce moment-là, et c'était pas les mêmes moyens pour de transport qu'on connaît aujourd'hui. Et après deux mois sur la route pour revenir ici, il était revenu et croyait avoir un retour en héros. Il avait remporté une médaille pour son pays. Eh bien, il y avait son père et son frère qui l'attendaient au port de Montréal. Et ça avait été une de ses grandes déceptions. Peut-être une raison pourquoi il s'était tourné vers la lutte professionnelle par la suite. Il n'a jamais affronté Hulk Hogan, par contre, Paul, mais
non.
Il a fait équipe avec Hulk Hogan dans le coin de Minneapolis pour la AWA là, dans les années 80.
Tu imagines, il a affronté le géant ferré et Maurice n'était pas grand.
Hein? Oh non.
5 pieds 6, 5 pieds... Ben, enfin, 5 pieds 7 à peu près. 5 pieds 7, 5 pieds 8. Et le géant ferré à 7 pieds 3.
Ah, tout ce qu'il y avait en commun, c'est le maillot à bretelles.
Oui.
Bon. Son frère Paul Vachon disait à 5 pieds 8, je trouvais que mon frère exagérait sa grandeur.
Oui, un peu, oui, c'est ça. Thérèse nous a rappelé que Eddie Creechman avait une cour, ce qu'on appelle une cour à scrap.
Oui, c'est un auditeur qui nous dit que Eddie Creechman avait une cour à scrap à Saint-Hyacinthe et il dit que c'était surréaliste d'aller chercher des morceaux d'automobile chez lui.
Mais c'est encore drôle parce que la surprise aurait pu trouver Eddie Creechman dans sa propre cour à scrap parce que certains soirs, au Forum, au Centre Paul Sauvé, lui et Abdullah the Butcher, qui était un de ses protégés, ils se mettent tellement à la terreur partout que ça créait des mini-émeutes. Parce que personne ne voulait s'attaquer à Abdullah, mais Eddie Creechman, c'était le petit des deux, donc les gens croyaient avoir vraiment une chance. Donc, pour le sortir de l'aréna, Abdullah mettait Eddie Creechman dans la valise de son auto pour le sortir subtilement de l'aréna. Encore d'autres ne se feront pas retrouver dans sa propre cour à scrap pris dans une valise d'auto.
Le lundi soir, Pat, tout le monde, le lundi soir, des fois, quand j'étais à l'université, on allait, parce que ça, c'était la lutte de Johnny Rougeau, Gino Brito, au Centre Paul Sauvé, qui n'existe plus. Et un lundi soir, Eddie Creechman arrive avec Abdullah the Butcher, et il y a une dame effrontée et qui n'avait pas peur, qui a attaqué Eddie Creechman à coups de sacoche. Ah. Et c'était...
Mais c'était un baveux, là.
C'était improvisé. Là. Oh. Il y a les gens qui disent, regarde, naïf, c'était arrangé. C'était pas arrangé.
Mais il y a les fans, je veux dire, il y en a beaucoup dans l'histoire de la lutte qui ont été attaqués par des fans. Les fans, ils croyaient pour vrai dans ces années-là, au point, il y a des lutteurs qui ont été attaqués à coups de couteau, de canif. Bob Langevin est devenu impotent suite à une attaque de fans lorsqu'il débutait sa carrière de méchant dans la lutte. Donc, c'était vraiment une autre époque qu'on pourrait plus... C'est des choses qu'on pourrait plus voir aujourd'hui.
Il y a un de nos auditeurs qui nous dit que Frenchie Martin s'appelait Jean Gagné dans la vie. Et il dit, il y a une dame qui allait à la lutte. Et lui, à chaque fois qu'il allait à la lutte, il y avait une dame qui était là avec son enfant, avec son fils de 7 ans. Puis elle disait, elle arrêtait pas de lui crier... Après, avec son vrai nom dans les galas.
Oui, et il faisait semblant.
Puis il haïssait ça, puis il faisait semblant.
Ben oui.
Il répond, tu comprends, il ne se retournait pas, puis il était fâché de ça.
Une fois, tu me parles de vrai nom, une fois, il y avait un combat entre Anne Schmidt et Jacques Rougeau. Et puis Anne Schmidt, c'était un méchant, mais Anne Schmidt, c'était un méchant allemand, mais qui s'appelait dans le fond Guy Larose, qui venait de Joliette. Et puis à un moment donné, il y a un combat entre Schmidt et Rougeau, et il y a un fan qui est dans les premières rangées, qui a un briquet, et qui regarde Schmidt, puis il ouvre son briquet, puis il dit « Je vais te brûler les yeux. » Puis à un moment donné, Anne Schmidt se tanne. Et Anne Schmidt, on s'entend, ça devait être un Allemand. Et il regarde le fan et il dit dans un français québécois impeccable, « Là, je vais lâcher Jacques. Puis si t'arrêtes pas, c'est toi que je viens chercher. »
Wow!
Paraît que le fan a complètement arrêté.
Ben oui, lui, parce que
on
le présentait comme un lutteur nazi qui faisait le signe nazi. On le présentait de Berlin. On disait de Berlin, on donnait son poids. Et puis on disait, voici Anne Schmidt qui se met à parler québécois comme toi et moi à ce fan qui n'en est pas revenu. Oh, en tout cas, il y a tellement de...
Vous parliez de Michel Dubois tantôt.
Ah, moi, c'était un de mes préférés, ça.
Michel Justice.
Ici, c'était Justice. C'est Michel Justice Dubois. Mais quand il luttait sur la côte ouest américaine, son nom, c'était Alexis Smirnov. Ils jouent un russe. Donc, les Québécois, on pouvait jouer différents personnages. Un russe, un allemand. On avait le dos large à ce niveau-là. Auréal Perras, qui était un franco-ontarien, jouait Ivan Koloff. C'était un franco-ontarien qui jouait Ivan Koloff.
Et Jim Dogan. Duggan.
Oui.
C'est quoi l'affaire du 2x4?
Oui, il se promenait avec un 2x4. Hacksaw Duggan, c'est okay.
ça? Jim Duggan.
Exactement. Un ancien joueur de la Ligue canadienne de football qui a fait de la lutte pendant longtemps. Et lui, son outil de prédilection, c'était d'amener un 2x4 avec lui. Donc, à un moment donné, il pouvait s'en servir pour vider l'arène. des méchants qui terrassaient un de ses coéquipiers ou un de ses amis.
Alors, écoute, Pat, on peut t'écouter, bien sûr, à TVA Sport, parce que tu décris également la lutte. Mais je recommande à tout le monde, si vous voulez faire un beau cadeau à quelqu'un qui aime la lutte, ton livre, avec celui de écrit avec Bertrand Hébert, Le géant ferré.
Oui, oui.
On apprend plein de choses sur ce grand lutteur des Alpes.
Aussi, ouais, ouais.
Il a tellement marqué l'imaginaire, André Le géant ferré, que Paul White, qui est le géant, si tu veux, de la WWF présentement, quand il a commencé à lutter, il disait qu'il vivait un grand inconfort parce qu'il portait le même maillot que Géant Ferré. Et les gens disaient, hey, on a beaucoup aimé ton père. Puis il disait, m'emmener, c'était tellement intense, j'étais plus capable de dire au monde, c'est pas mon père. Fait qu'il faisait, merci.
OK, c'est bon.
Tellement... Ouais, parce que quand Paul White avait commencé sa carrière à la WCW, on faisait allusion qu'on l'appelait le géant, juste the giant. Et on faisait allusion que c'était le fils d'André the Giant. Donc, c'est pour ça que les gens voyaient pour vrai que c'était son père.
Ouais.
Et dans le fond, lui, il se sentait mal parce qu'il savait que le géant avait une fille. Il n'a jamais eu de garçon, mais il avait une fille. Mais l'information était plus ou moins connue, donc il se sentait toujours mal vis-à-vis elle de dire, ben oui, mais c'est pas mon père, j'ai rien à voir dans cette
famille. Quel gentil monsieur.
Hey, Pat, en terminant, parce que j'ai lancé, Abdullah the Butcher était toujours présenté comme originaire de Khartoum au Soudan. On disait du Soudan, pesant 350 livres, 330 livres. Voici Abdullah the Butcher. C'était bien Larry quelque chose de Windsor, Ontario?
Larry Shreve de Windsor en Ontario. Tout comme Killer Kowalski, de son vrai nom Vladek Kowalski, qu'on présentait de Pologne, quand dans les faits, il venait lui aussi de Windsor en Ontario.
C'est magnifique. Pat Laprade, merci beaucoup. On t'a réveillé, mais ça valait la peine.
Ben non, ben ça valait la peine.
Ça valait la peine.
Ben oui, puis il va regarder l'Undertaker ce soir, c'est sûr.
C'est sûr, ce soir.
On va regarder l'Undertaker. Savais-tu, Paul, que son gérant qu'il a eu pendant des années, Paul Bearer, qui veut dire qu'il est un jeu de mots sur le fait de sur le mot anglais, Paul Bearer.
Fossoyeur, exactement.
Oui, exactement, un porteur de cercueil. Ouais. Lui, Paul Bearer, il avait deux buts dans la vie. Il voulait lutter, il voulait être dans le monde de la lutte, puis il voulait diriger un salon funéraire. Et imagine, il est devenu gérant avec le nom Paul Bearer de l'Undertaker. Ses deux rêves se sont mélangés. C'est devenu ce personnage tout à fait unique avec l'Undertaker. Et Kane également, qui sont pour moi...
On va en parler jusqu'à demain. Merci beaucoup, Pat Laprade. Va te recoucher.
C'est trop bon.
Va te recoucher dans le cercueil.
Johnny Rougeau, il était gérant à Laval d'une équipe junior.
Bien sûr.
Il demandait à ses amis lutteurs d'aller s'asseoir derrière le banc des clubs visiteurs pour intimider
absolument. Johnny Rougeau également, qui a servi un peu d'escorte, de garde du corps de René Lévesque. Avant que René Lévesque devienne premier ministre en 76.
Ouf! Que de souvenirs de lutte!